Orange, cyberdéfense.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. It's now.
Imaginons la scène un instant. C'est un mardi soir, tout ce qu'il y a de plus banal. On fait défiler un fil d'actualité et là, bam, on tombe sur une vidéo amateur.
Une situation classique, oui.
Exactement. Et sur cette vidéo, on voit une rivière locale, enfin celle-là même où les enfants de la région se baignent tout l'été, qui est en train d'être contaminée par des fûts de produits chimiques. Et évidemment, il y a le logo d'une entreprise bien connue dessus.
Et là, la réaction est immédiate.
Ah bah, le rythme cardiaque s'accélère, le sang bouillonne, on se dit que c'est un scandale absolu. Sans même y penser, le doigt clique sur partager, on ajoute un petit commentaire bien indigné, on reçoit des dizaines de likes et on a vraiment le sentiment d'avoir fait son devoir de citoyen.
Sauf que,
trois mois plus tard, une enquête démontre que cette fameuse rivière, elle se trouve sur un tout autre continent.
Piège parfait.
C'est fou, parce qu'on a l'impression de maîtriser le monde numérique, de connaître les règles du jeu, et soudain on réalise que l'échiquier tout entier a été piraté. C'est vraiment le point de départ de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. Et je suis ravie d'annoncer qu'il s'agit d'une édition un peu spéciale, puisqu'elle nous est présentée par le Cyber Intelligence Bureau.
Oui, tout à fait. C'est une division très spécifique qui appartient au laboratoire d'épidémiologie de Orange Cyber Defense. Leur rôle, en fait, c'est d'analyser la propagation des menaces, non pas comme de simples bugs informatiques, mais presque comme des virus sociétaux.
Et ce qui est fascinant dans l'approche de ce bureau, c'est qu'ils ne se contentent pas d'auditer des lignes de code ou de chercher des failles dans des pare-feux. Leur méthodologie combine ce qu'on appelle dans le jargon l'OSINT, donc l'analyse des renseignements trouvés en source ouverte publique, avec de l'UMINT.
C'est-à-dire l'intelligence humaine et l'épreuve de terrain.
C'est ça. On est face à des investigations cybernétiques qui décortiquent absolument tout. Le contexte géopolitique, l'état émotionnel des populations ciblées, les biais cognitifs. Et aujourd'hui, nos sources se penchent sur une menace précise qui monte vraiment en puissance. On appelle cela le factivisme manipulé.
Un terme très fort. C'est la fusion de deux mots, en fait. Fake, le faux, et activisme. Pour le définir simplement, disons que c'est l'art d'utiliser des faits détournés ou de fausses fuites de données montées de toutes pièces pour manipuler massivement l'opinion publique.
D'accord.
Mais attention, les attaquants ne se présentent jamais comme des cybercriminels. Ils se drapent toujours dans la vertu. Ils opèrent sous le couvert d'un militantisme citoyen légitime pour susciter la sympathie. C'est au final le principe du faux drapeau appliqué à la guerre de l'information.
Bon, décortiquons un peu ça. Je veux bien comprendre la théorie, mais si l'on prend un peu de recul, jeter une fausse vidéo sur Internet, même si elle est très choquante, ça ressemble quand même à une bouteille à la mer. Il y a des millions de contenus publiés chaque seconde. Comment font-ils pour que ça prenne à chaque fois? J'imagine qu'ils ne balancent pas ça au hasard.
Ah non, surtout pas. C'est justement la première phase de leur attaque, et c'est ce qu'on appelle le SOCMINT, pour Social Media Intelligence, le renseignement issu des réseaux sociaux.
Mmh.
L'objectif est de trouver la cible parfaite avant même de créer le moindre faux contenu. Et là, il y a une idée reçue tenace dont il faut absolument se débarrasser.
Laquelle?
L'idée que c'est, je ne sais pas, une super intelligence artificielle qui scanne le monde entier.
Exactement.
On imagine souvent de gigantesques serveurs algorithmiques qui feraient des corrélations magiques de manière autonome. Mais la réalité de la menace est bien plus artisanale et bien plus redoutable.
Ah ouais?
Le SOCMINT repose sur des investigateurs humains extrêmement qualifiés. Ce sont des analystes qui passent leur journée à scruter des forums locaux, des groupes de quartier sur les réseaux ou des canaux de discussion un peu obscurs.
Donc des vraies personnes derrière leurs écrans.
Des vraies personnes, oui.
Leur mission, c'est de cartographier minutieusement la sociologie d'une population cible. Ils cherchent les fractures sociales, les colères latentes, les frustrations liées à l'inflation par exemple, ou les querelles historiques entre deux communautés. Ils étudient la psychologie des foules pour savoir exactement où la faille se trouve.
Et si je file une analogie, c'est le comportement d'un cambrioleur professionnel, en fait. Il ne va pas débarquer dans une rue animée, en plein après-midi, pour essayer d'enfoncer la porte d'entrée blindée d'une maison au hasard.
Non, ça n'aurait aucun sens.
Oui, il va plutôt se garer un peu plus loin, passer 3 semaines à observer les habitudes d'une famille, noter que la louière de la cuisine s'éteint toujours à 22h, et surtout, repérer cette unique petite fenêtre à l'arrière, près du garage, dont le loquet est cassé. C'est une excellente image.
Mais d'accord, admettons. L'analyste SOCMINT a trouvé ma fenêtre mal fermée. Il sait que je suis, par exemple, très inquiète pour l'écologie de ma région. En quoi le simple fait de savoir ça fait de moi un pion manipulable?
C'est la transition cruciale entre l'observation et ce que les stratèges militaires nomment la guerre cognitive. Savoir que le loquet est cassé, ça ne suffit pas. Il faut maintenant lancer l'attaque pour s'introduire dans l'esprit.
C'est là que ça devient vraiment intéressant.
Et pour y parvenir, les attaquants vont s'appuyer sur une vulnérabilité propre à chaque être humain. Pour bien la comprendre, il faut regarder les travaux du prix Nobel d'économie Daniel Kahneman. Il a modélisé l'architecture de notre prise de décision en deux systèmes bien distincts.
Le fameux système 1 et système 2 ?
C'est ça. Le système 1, c'est notre pensée rapide. Elle est instinctive, émotionnelle. C'est du réflexe. Et le système 2, c'est notre pensée lente. Elle est analytique, logique et capable de doute et de critique.
Le système 2, c'est celui qu'on utilise quand on doit, par exemple, résoudre un problème mathématique complexe ou lire les petits caractères d'un contrat d'assurance. C'est épuisant.
C'est exactement le mot. Épuisant. Le système 2 consomme énormément d'énergie cognitive. Donc, notre cerveau, par pur souci d'économie, préfère laisser le système 1 aux commandes la majorité du temps. Et l'effectivisme manipulé va exploiter cette paresse naturelle de manière chirurgicale.
En bloquant le système 2.
En le saturant complètement, oui. On va bombarder le système 1. On va injecter sur les écrans des messages qui provoquent un choc primitif. La peur pour la sécurité des enfants, le dégoût face à une injustice flagrante, la colère viscérale.
D'accord.
Face à ce tsunami émotionnel, le système 2 n'a tout simplement pas le temps de démarrer. L'esprit critique est totalement court-circuité.
Et c'est là que le piège devient super évident. Le système 1 réagit comme un muscle face à la douleur, en fin de compte. Si on pose la main sur une plaque brûlante, le corps la retire immédiatement. On ne prend pas le temps de réfléchir au type de métal de la plaque ou à son thermostat, quoi. C'est de l'instinct pur.
Absolument.
Dans ce contexte, l'attaquant jette littéralement des flammes numériques sur les réseaux. Le but, c'est de déclencher une réaction immédiate, avant même que notre système 2 n'ait pu dire « Attendez une seconde, qui a posté cette vidéo ?»
La métaphore de la brûlure illustre parfaitement ce réflexe. Sauf que, bon, retirer sa main de la plaque, ça ne profite pas à la plaque. Alors que réagir à une fausse information, ça profite directement à l'attaquant.
C'est très juste.
Mais déclencher cette étincelle émotionnelle, ce n'est que la phase d'amorçage. Un mouvement de désinformation ne peut pas survivre sur une seule émotion fugace. Il faut que les personnes touchées deviennent, à leur insu, les petits soldats de la propagation.
Mais justement, je m'interroge là-dessus. D'accord, l'image me choque, je ressens de la colère. Mais l'indignation, ça finit toujours par retomber, on passe à autre chose. Comment parviennent-ils à maintenir les gens sous emprise pour qu'ils continuent à propager le narratif des jours, voire des semaines plus tard ?
En utilisant le design comportemental, et plus précisément le modèle Hook, le modèle du crochet en français, qui a été théorisé par l'auteur Nir Eyal.
Ah oui, les modèles utilisés dans la tech.
Voilà. À l'origine, ce modèle explique comment créer des applications très addictives, mais il a été complètement militarisé par les acteurs de la menace. Ce piège cybercognitif se referme en 4 étapes. La première, on vient d'en parler, c'est le déclencheur. L'image choquante qui active le système 1.
D'accord. Et la deuxième étape ?
C'est l'action. Une action qui doit demander un minimum d'effort sans aucune friction. Un simple clic, un retweet, un like ou un transfert sur une messagerie privée.
Une action qui, paradoxalement, nous soulage un peu la tension émotionnelle créée par le déclencheur. C'est bien ça ?
Tout à fait. C'est une forme d'exutoire. Mais c'est la troisième étape qui scelle la dépendance. La récompense variable.
Ah.
Une fois que l'individu a partagé le faux contenu militant, il reçoit une décharge neurochimique de dopamine. Et d'où vient-elle ? De la validation sociale. Les notifications s'accumulent sur le téléphone, les likes pleuvent, des inconnus commandent pour féliciter son engagement. Il a soudainement l'impression d'appartenir à une tribu éveillée, d'être du bon côté de l'histoire.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? C'est d'un cynisme effrayant. On utilise notre besoin fondamental d'appartenance sociale comme une machine à sous dans un casino.
Exactement.
On tire le levier de l'indignation et la machine nous recrache des likes en guise de jetons, juste pour nous encourager à rejouer.
Et le cynisme va encore plus loin avec la quatrième et dernière étape du modèle, l'investissement. C'est le moment où le piège se verrouille définitivement. L'individu s'est engagé publiquement. Il a investi de son temps et de sa réputation numérique pour cette soi-disant cause.
Ouais, il a pris parti.
Que se passe-t-il si, quelques jours plus tard, des journalistes lui apportent la preuve formelle et rationnelle que l'information qu'il a partagée est un montage grossier ?
Ouais, logiquement, il devrait dire « Oups, je me suis fait avoir » et retirer son message, non ?
C'est ce que ferait un système 2 bien reposé. Mais psychologiquement, admettre qu'on a été le pion idiot d'une propagande étatique, c'est extrêmement douloureux pour l'ego. Le cerveau va donc générer ce qu'on appelle une dissonance cognitive.
Le fameux refus de la réalité.
Pour se protéger de cette douleur mentale, l'individu va rejeter la vérité. Il va crier au complot contre les journalistes, par exemple. Et il va, paradoxalement, défendre le mensonge initial avec encore plus d'agressivité. Il est désormais un agent actif du factivisme.
Laissez-moi voir si je saisis bien la mécanique globale. C'est redoutable sur un individu isolé, d'accord ? Mais pour que cette illusion de validation sociale fonctionne, pour que je reçoive mes centaines de likes qui me donnent ma petite dose de dopamine, il faut bien qu'il y ait du monde autour de la machine à sous.
Bien sûr.
Si l'attaquant derrière son écran est seul, ou même s'ils sont 10, ils ne peuvent pas simuler une foule entière. D'où viennent ces récompenses sociales ? C'est qui ces gens ?
C'est la question centrale. Et c'est à ce moment précis que la psychologie laisse la place à l'arsenal technologique lourd. Pour simuler ce consensus de masse, les attaquants utilisent aujourd'hui des réseaux hybrides extrêmement sophistiqués que les chercheurs appellent des cyborgs.
Des cyborgs ? On s'éloigne des simples bots qui spammaient les sections commentaires il y a quelques années, non ? Avec leurs fautes de frappe et leur grammaire un peu approximative.
Ah, on est dans une toute autre dimension, je vous assure. Il fut un temps où une armée de faux comptes se repérait facilement. 1000 comptes différents postaient exactement la même phrase, avec une mauvaise traduction automatisée. Les filtres de sécurité des plateformes les bloquaient en quelques minutes.
Et aujourd'hui ?
Les cyborgs d'aujourd'hui, c'est la collaboration parfaite entre des opérateurs humains et l'intelligence artificielle générative, les fameux LLM. Un seul opérateur humain peut donner une directive sémantique à une IA, et celle-ci va générer instantanément des milliers de messages avec des syntaxes différentes.
Wow.
Avec un ton différent, parfois en utilisant de l'argot local très précis, tout ça pour contourner les algorithmes de détection. Le fond idéologique est exactement le même, mais la forme est unique à chaque fois.
C'est l'équivalent numérique de ce qu'on appelle l'astroturfing en politique, non ?
C'est ça ! Cette technique qui consiste à dérouler du gazon synthétique pour faire croire à un mouvement citoyen naturel. De loin, on voit une magnifique pelouse qui semble avoir poussé spontanément grâce à la colère populaire. Mais quand on se penche de très près, on sent l'odeur du plastique industriel fabriqué en usine. C'est une excellente image. Sauf que ce gazon synthétique est devenu indiscernable du vrai, même de très près. Surtout que l'arsenal s'étend bien au-delà du simple texte.
Comment ça ?
Ces réseaux utilisent des deepfakes multimodaux. Cela signifie qu'ils génèrent de fausses vidéos ultra-réalistes, ils clonent des voix de personnalités politiques avec juste 3 secondes d'échantillons audio, ils créent de faux écrans de journaux télévisés piratés.
C'est terrifiant !
L'objectif, c'est de frapper directement la rétine et le tympan, pour s'assurer que le système 1, l'émotionnel, reste saturé en permanence.
Je vous écoute et une pensée assez sombre me vient. Si l'intelligence artificielle permet de générer des preuves visuelles et sonores parfaites d'événements qui n'ont jamais eu lieu, alors le danger, ce n'est pas seulement qu'on finisse par croire à un mensonge. Le danger mortel, c'est qu'on finisse par ne plus croire en la vérité du tout.
Vous touchez du doigt la conséquence la plus dévastatrice de cette guerre. Ce que vous décrivez, les experts le nomment le dividende du menteur, le liar's dividend en anglais. Et c'est un concept qui fait froid dans le dos.
Le dividende du menteur, comment ça s'articule concrètement, ça ?
Si l'on relie cela à une perspective plus large, pensez-y de cette façon. L'omniprésence du factivisme et la conscience collective que l'IA peut absolument tout falsifier créent une aubaine inespérée pour les acteurs véritablement corrompus. Imaginez qu'une véritable affaire d'État éclate. De vrais lanceurs d'alerte publient une vidéo authentique d'un dirigeant de multinationale ou d'un politicien en train de commettre un crime flagrant ou d'avouer une corruption.
D'accord, la vidéo est vraie.
Il y a 10 ans, cette preuve sonnait la fin de sa carrière sur le champ. Aujourd'hui, l'entité accusée n'a même plus besoin d'élaborer une défense complexe. Il lui suffit de regarder la caméra et de dire, avec aplomb, « Ne soyez pas naïfs, vous savez ce que l'intelligence artificielle peut faire aujourd'hui. C'est un complot, cette vidéo est un vulgaire deepfake. »
Mais attendez, il y a quand même des experts, des journalistes d'investigation, des fact-checkers qui peuvent prouver que la vidéo est réelle, non ? La vérité technique, elle existe toujours.
Elle existe techniquement, oui, je suis bien d'accord. Mais sur le plan cognitif, à l'échelle d'une société, le mal est déjà fait. Le public est tellement épuisé par cette bataille permanente entre le vrai et le faux, il est frappé par une fatigue mentale telle qu'il finit par hausser les épaules.
C'est le renoncement.
Tout le monde manipule tout le monde, moi je ne crois plus en rien. Et c'est là que le piège se referme sur la démocratie.
C'est un effondrement complet. Parce que si la notion même de preuve objective disparaît de l'espace public, alors il n'y a plus de débat possible.
Et si le citoyen n'est plus capable de s'indigner pour de vraies causes parce qu'il doute de tout, la société est paralysée.
Exactement.
Ce n'est même plus gagner la guerre de l'information, c'est carrément détruire le champ de bataille pour que personne ne puisse plus jamais s'y opposer.
C'est le but ultime. Le nihilisme épistémique désamorce tout contre-pouvoir citoyen. Bon, face à ce tableau qui, je l'admets, frôle un peu la dystopie, on pourrait se sentir totalement impuissant.
C'est vrai qu'on se sent un peu désarmé là.
Pourtant, l'étude de ces phénomènes par des entités comme le Cyber Intelligence Bureau apporte aussi des lueurs d'espoir très concrètes. La recherche cognitive a développé des parades, et la plus puissante d'entre elles s'appelle l'inoculation cognitive.
L'inoculation, ouais. On emprunte le vocabulaire de la virologie, là, comme pour la création d'un vaccin?
C'est rigoureusement la même mécanique. Comment fonctionne un vaccin corporel? On expose votre système immunitaire à une version affaiblie ou inactive d'un virus pour que votre corps apprenne à le reconnaître et crée des anticorps.
Oui, tout à fait.
L'inoculation cognitive, souvent appelée pre-bunking, c'est la même chose pour l'esprit. Au lieu d'attendre qu'une fausse information fasse des ravages pour essayer de la démentir laborieusement...
Ce qui, on l'a vu avec la dissonance cognitive, ne marche pas très bien.
C'est ça. Donc, on expose préventivement les citoyens aux techniques mêmes de la manipulation.
Donc, si je comprends bien, on explique aux gens comment le tour de magie fonctionne dans les coulisses pour qu'ils ne se laissent plus éblouir par le magicien sur scène.
Voilà. On leur apprend comment fonctionne l'appel à l'émotion de Kahneman, comment identifier un conte cyborg ou comment repérer un fait qui a été isolé artificiellement de son contexte.
C'est passionnant.
Et pour rendre cela applicable au quotidien, les experts en cybersécurité et en éducation aux médias ont développé des outils mentaux très simples. Un des meilleurs boucliers citoyens actuels, c'est la méthode SOS Vérif.
SOS Vérif. Comment ça fonctionne concrètement sur le terrain face à son écran ?
C'est une liste de contrôles d'urgence en quelques étapes. D'abord, le premier S, c'est pour la source. D'où vient exactement cette information? Est-ce un média reconnu, un témoin direct ou un compte anonyme créé il y a 2 jours?
D'accord, la base. Ensuite, le O.
Le O de objectif. Le fait qui m'est présenté est-il exhaustif? Ou est-ce qu'on a soigneusement sélectionné un petit morceau d'une vidéo longue de 3 heures juste pour me faire réagir?
La fameuse manipulation par l'omission. Et le deuxième S demande quoi?
De chercher les sources contradictoires. Que disent les autres observateurs de cet événement? Le silence des autres médias est très souvent plus révélateur que l'information elle-même.
C'est tellement vrai, ça. Ensuite, il y a l'étape de vérification.
La vérification des intérêts. À qui profite la diffusion de cette indignation là maintenant? Et enfin, la clé de voûte de toute cette méthode, s'imposer de faire primer la raison sur l'émotion.
Le système 2 sur le système 1, en somme. SOS Vérif, c'est véritablement un manuel de survie pour notre environnement numérique qui est aujourd'hui ultra saturé. Ce que toutes ces analyses du Cyber Intelligence Bureau nous démontrent, c'est l'urgence absolue de reprendre le contrôle de notre espace mental.
Absolument.
Nous ne sommes pas condamnés à être de simples cibles passives dont les moindres frustrations sont cartographiées par le SocMint pour nourrir des cyborgs algorithmiques.
La passivité, c'est le seul véritable allié des attaquants. En comprenant leur méthode, nous reprenons l'avantage.
Et c'est bien ce qui rend cette exploration si cruciale. Les architectes du factivisme utilisent notre impulsivité et notre désir d'appartenance sociale comme le carburant même de leur machine de guerre. Ils ont besoin de notre indignation instantanée, de nos clics précipités, de nos partages à chaud. Au fond, c'est leur oxygène.
Sans ça, ils ne sont rien.
Et cela nous amène à une réflexion finale assez vertigineuse sur notre rôle dans cette société de l'immédiateté. Si notre attention fragmentée et notre réactivité émotionnelle sont littéralement les munitions qu'ils utilisent contre nous, alors face à une révélation choc sur les réseaux sociaux, face à une vidéo qui fait monter notre rythme cardiaque en flèche et qui nous hurle de prendre position immédiate, peut-être que l'acte de rébellion civique le plus puissant à l'ère du numérique, la véritable résistance, ce n'est pas de publier un long texte indigné.
Non, en effet.
Peut-être que c'est simplement de s'asseoir en silence, de prendre une grande inspiration, et d'avoir le courage de ne absolument rien faire pendant 24 heures.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. We'll be talking about it on this channel very soon.
Orange, cyberdéfense.